Germaine de Staël, Delphine, partie 4, lettres 12 à 17 comprises. Lettre 12. Mademoiselle d'Albémare à Madame de Lébancey. Paris, ce 25 août. J'ai besoin, madame, de vous confier mes chagrins, de vous demander vos conseils. Monsieur de Lébancey vous a-t-il dit comment l'indigne monsieur de Fierville et son ami, plus odieux encore, ont trouvé l'art d'empoisonner l'aventure de monsieur de Valorbe? Ils ont répondu, dans le monde, que Delphine, notre angélique Delphine, avait donné rendez-vous à deux hommes la même nuit, et qu'un malentendu sur les heures avait été la cause de la rencontre où Léonce avait grièvement insulté monsieur de Valorbe. Non. Je n'ai pu vous écrire une semblable infamie sans que mon front se couvrît de rougeur. Juste ciel, c'est donc ainsi qu'on veut punir une âme innocente de sa générosité même? C'est ainsi que l'on outrage le caractère le plus noble et le plus pur? Deux êtres méchants, et le reste indifférent et faible, voilà ce qui décide de la réputation d'une femme au milieu de Paris. Madame Dumarsais et monsieur de Fierville ont voulu se venger ainsi, dit-on, d'un jour où Léonce les a profondément humiliés en défendant madame d'Albémare. Maintenant, que faut-il faire pour la servir? Aidez-moi, je vous en conjure, et cachons-lui surtout qu'elle a pu être l'objet d'une pareille calomnie. Sa santé la retient encore chez elle, et je lui ai conseillé de fermer sa porte. Léonce est allé conduire sa femme à la terre d'Andully, qu'elle tient des dons de Delphine, et sans laquelle, hélas, elle n'eût jamais épousé M. de Mondeville. Je l'aurais consulté lui-même dans cette circonstance, puisque l'âge de M. de Fierville ne permet pas de craindre un événement funeste. Mais il est absent, et je suis seule au milieu d'un monde bien nouveau pour moi, et dont la puissance me fait trembler. Néanmoins, j'ai vaincu ma répugnance pour la société. J'y vais, j'irai chaque jour, j'y répéterai ce qui justifie glorieusement mon ami. Sans avouer le sentiment de Delphine pour Léonce, je ne le démentirai point, car je veux mettre toute ma force dans la vérité, il ne me reste qu'elle. Je suis ici une étrangère, sans agrément, sans appui, intimidée par ma figure et mon ignorance de la vie. N'importe, j'aime Delphine, et je soutiens la plus juste des causes. Je ne sais à qui m'adresser. Je ne sais de quels moyens on se sert ici pour repousser la calomnie. Mais je dirai tout ce que mon indignation m'inspirera. Peut-être enfin triompherai-je de l'envie, seul genre de malveillance que ma douce et charmante amie puisse redouter. Je n'avais pas d'idée du mal que peut faire l'opinion de la société quand on a trouvé l'art de l'égarer. Oui, ceux qu'on est convenu d'appeler des amis me font plus souffrir encore que les ennemis même. Ils viennent se vanter auprès de vous des services qu'ils prétendent vous avoir rendus, et l'on ne peut démêler avec certitude si, pour augmenter le prix de leur courage, ils ne se plaisent pas à exagérer les attaques dont ils prétendent avoir triomphé. D'autres se bornent à vous assurer que, quoi qu'il arrive, ils ne vous abandonneront pas, et vous ne pouvez pas leur faire expliquer ce quoi qu'il arrive. Il leur convient mieux de le laisser dans le vague. Quelques-uns me donnent le conseil d'emmener Delphine en Languedoc, et lorsque je veux leur prouver que le plus mauvais moment pour s'éloigner, c'est celui où l'on doit braver et confondre une indigne calomnie, ils me répètent le même conseil, sans avoir fait attention à ma réponse. Et, tout occupés de la vie qu'ils ont proposée, ils y attachent leur amour-propre, et se croient dispensés de vous secourir si vous ne le suivez pas. Il est plus facile de se défendre contre des adversaires déclarés que de s'astreindre à la conduite nécessaire avec de tels amis. Ils servent seulement à encourager les ennemis, en leur montrant combien est faible la résistance qu'ils ont à craindre. Et cependant, s'ils se brouillaient avec vous, ils rendraient votre situation plus mauvaise. Ne commenceraient-ils pas leur phrase de renonciation par ces mots ? Moi qui aimais Madame d'Albémare, je suis obligé de convenir qu'il n'y a pas moyen à présent de l'excuser. Funeste pays, où le nom d'ami, si légèrement prodigué, n'impose pas le devoir de défendre, et donne seulement plus de moyens de nuire si l'on abandonne. L'opinion apparaît en tout lieu, et vous ne pouvez la saisir nulle part. Chacun me dit qu'on répand les plus indignes mensonges contre Delphine, et je ne parviens pas à découvrir si celui qui me parle les répète ou les invente lui-même. Je me crois toujours environné de moqueurs, qui se trahissent par un regard ou par un sourire d'insouciance, dans le moment où ils me protestent qu'ils s'intéressent à ma peine. Je ne perds pas une occasion de raconter les motifs de reconnaissance qui devaient engager Delphine à donner asile à M. de Valorbe, comme s'il fallait, pour rendre service à un malheureux, d'autres motifs que son malheur. En vérité, je le crois, il est ici plus dangereux d'exercer la vertu que de se livrer au vice. L'on ne veut pas croire aux sentiments généreux, et l'on cherche avec autant de soin à dénaturer la cause des bonnes actions qu'à trouver des excuses pour les mauvaises. Ah, qu'il vaut mieux vivre obscur et n'avoir jamais obtenu ces flatteuses louanges, avant-coureurs de la haine, et dont elle vient en hâte exiger de vous le prix. Pour la première fois, je me console d'avoir été banni du monde par mes désavantages naturels. Qu'ai-je dit, je me console ? Delphine n'est-elle pas malheureuse ? Et quel calme puis-je jamais goûter si l'on ne parvient pas à la justifier ? Daignez, madame, vous concerter avec M. de Lébancey sur ce qu'il est possible de tenter, et accordez-moi l'un et l'autre le secours de vos lumières et de votre amitié. Lettre 13. Réponse de Madame de Lébancey à Mademoiselle d'Albémare. Cernay, ce 30 août 1791. L'émotion que m'a causée votre lettre, mademoiselle, a été la cause du premier tort que j'ai jamais eu avec Henri. Après l'avoir lu, je m'écriais. Ah, pourquoi suis-je privée de tout ascendant sur personne, proscrite que je suis par l'opinion ? Il ne me reste aucun moyen d'être utile à mes amis calomniés. À peine avais-je dit ces mots qu'un repentir profond, un tendre retour vers mon ami l'y suivit. Mais je craignis pendant plusieurs heures que leur impression sur lui ne fût ineffaçable. Enfin, il m'a pardonné parce que j'avais tort, grièvement tort, et qu'il lui était trop aisé de me le faire sentir pour qu'il ne fût pas dans son caractère de s'y refuser. Il est parti pour Paris dans l'intention de servir Madame d'Albémare. Mais il aura soin de faire répandre par d'autres ce qu'il faut que l'on dise, car les préjugés de la société sont tels contre les opinions politiques de M. de Lébancey qu'il nuirait à Madame d'Albémare en se montrant son admirateur le plus zélé. Oh, que la malveillance a de ressources pour faire souffrir! Ne sentez-vous pas les méchants comme un poids sur le cœur? Ne vous semble-t-il pas qu'ils empêchent de respirer? Lorsqu'on voudrait reprendre un peu d'espoir, leur souvenir le repousse douloureusement au fond de l'âme. Quelques heures après le départ de M. de Lébancey, mon enfant étant assez bien, je n'ai pu résister au désir que j'avais de causer avec vous et de voir Madame d'Albémare, et je suis partie de Cernay assez tard, car je n'y suis revenue qu'à minuit. Vous étiez sortie, mais j'ai trouvé Delphine qui venait de recevoir une lettre de Léonce. Il annonçait son retour dans 8 jours avec les expressions les plus tendres et les plus passionnées pour Madame d'Albémare. Et cependant, elle m'a paru profondément triste. Je suis convaincue qu'elle sait ce que nous voulons lui cacher, mais que cette âme fière ne peut se résoudre à nous en parler. Elle n'avait laissé sa porte ouverte que pour Madame d'Artenay et pour moi. Si elle a vu Madame d'Artenay, elle est instruite de tout. Il n'est pas dans le caractère de cette femme de cacher ce qui peut être pénible. Elle sait servir utilement plutôt que ménager avec délicatesse. J'ai demandé à Madame d'Albémar ce qu'elle faisait depuis l'absence de Léonce. « Je donne des leçons à Isor, » m'a-t-elle répondu. « Je me promène tous les jours, seule avec elle, et je ne vois personne. » En achevant ces mots, elle a soupiré, et la conversation est tombée. « Ne serez-vous pas bien aise, » ai-je repris, du retour de Léonce. « De son retour, » m'a-t-elle dit vivement, « qu'arrivera-t-il quand il reviendra ?» Puis, s'arrêtant, elle a repris, « Pardonnez-moi, je suis triste et malade. » Et, jouant avec les jolis cheveux de la petite Isor, elle est retombée dans la distraction. J'hésitais si je me hasarderais à lui parler, mais elle ne paraissait pas le désirer, et je craignis de me tromper sur la cause de son abattement, ou du moins de lui en dire plus qu'elle n'en savait. Je l'ai quittée le cœur serré. Elle n'a point essayé de me retenir. Ses manières avec moi étaient moins tendres que de coutume, et telle que je connais son caractère, c'est une preuve qu'elle éprouve quelque grande peine. Dès qu'elle est heureuse, elle a besoin d'y associer ses amis. Mais je l'ai toujours vue disposée à souffrir seule. Ah, de quelle douloureuse pensée n'ai-je pas été occupée en revenant chez moi. Vous le voyez, il n'existe aucun moyen pour une femme de s'affranchir des peines causées par l'injustice de l'opinion. Delphine, l'indépendante Delphine elle-même en est atteinte, et ne peut se résoudre à nous le confier. Post-scriptum. J'en étais là de ma lettre, mademoiselle, lorsque Léonce, que nous n'attendions pas de 8 jours, est venu jusqu'à la grille de Cernay pour demander monsieur de Lébancey. Dès qu'il a su qu'il n'y était pas, il est reparti comme un éclair pour retourner à Paris. Mes gens ont su de son domestique qui le suivait qu'il avait laissé madame de Mondeville à Andely et qu'il en était parti tout à coup avec une diligence inconcevable. En arrivant à Paris, il est monté sur le champ à cheval pour venir ici sans s'arrêter. Mes gens m'ont aussi dit qu'il avait l'air très agité et que dans le peu de mots qu'il leur avait adressés, il avait changé de visage 2 ou 3 fois. Sans doute il a tout appris, et, sensible comme il l'est à la réputation de Delphine, je frémis de l'état où il doit être. Ah, mon Dieu, que deviendront nos pauvres amis? Si monsieur de Lébancey voit Léonce, je me hâterai de vous mander ce qu'il lui aura dit. Adieu, mademoiselle. Combien je suis touchée de votre situation et pénétrée d'estime pour l'amitié parfaite que vous témoignez à madame d'Albémar. Lettre 14. Delphine à monsieur de Lébancey. Ce 1er septembre. Je sais tout ce que mes amis ont voulu me cacher. J'ai tout appris ou j'ai tout deviné. Ce que j'éprouve m'est amer. J'avais marqué à l'injustice sa sphère. Je croyais qu'elle m'accuserait d'imprudence, de faiblesse, de tous les torts, excepté de ceux qui peuvent avilir. Je vous l'avouerai donc, je souffre depuis 15 jours une sorte de peine dont il me serait douloureux de m'entretenir même avec vous. Cependant, ma fierté doit triompher de ce chagrin, quelque cruel qu'il puisse être. Mais ce qui déchire mon cœur, c'est la crainte de l'impression que Léonce peut en recevoir. Il est arrivé hier dans deux lits et n'est point encore venu chez moi. Je sais qu'il a été à Cernay. Vous a-t-il trouvé? Que vous a-t-il dit? Ne craignez point, monsieur, de me parler avec une franchise sévère. Si j'étais réservée à la plus grande des souffrances, si l'affection de celui que j'aime était altérée par la calomnie dont je suis victime, j'opposerais encore du courage à ces derniers des malheurs. Conseillez-moi, je me sens capable de tous les sacrifices. Il y a des chagrins qui donnent de la force. Ceux qui offensent une âme élevée sont de ce nombre. Lettre 15. Léonce à monsieur de Lébancey. Paris, ce 1er septembre. J'ai reconnu en vous, monsieur, dans les divers rapports que nous avons eus ensemble, un esprit si ferme et si sage que je veux m'en remettre à vos lumières dans une circonstance où mon âme est trop agitée pour se servir de guide à elle-même. Un de mes amis m'a écrit à Andely que la réputation de Madame d'Albémare était indignement attaquée, et c'est à ma passion pour elle, aux fautes sans nombre que cette passion m'a fait commettre, que je dois attribuer son malheur et le mien. J'espérais savoir de vous le nom de l'infâme qui avait calomnié mon ami. Je ne vous ai pas trouvé. Je suis revenu à Paris et je n'ai eu que trop tôt la douleur d'apprendre qu'un vieillard était l'auteur de cette insigne lâcheté. Je l'avais offensé il y a quelques mois, vous le savez, et le misérable s'en est vengé sur Madame d'Albémare. Après avoir accablé M. de Fierville de mon mépris, j'ai obtenu de lui ce matin 1000 inutiles promesses de désaveu, de secret, de repentir. Mais à présent que l'horrible histoire qu'il a forgée est connue, ce n'est plus de lui qu'elle dépend. Ne puis-je pas découvrir un homme, ils ne sont pas tous des vieillards, qui se soit permis de calomnier Delphine? Quand je me complais dans cette idée, quand elle me calme, une autre vient bientôt me troubler. Puis-je dire avec certitude que je ne compromettrai pas Delphine en la vengeant, qu'au lieu d'étouffer les bruits qu'on a répandus, je n'en augmenterai pas l'éclat? Cependant, faut-il laisser de telles calomnies impunies? Me direz-vous que je le dois? N'hésiterez-vous pas, en me condamnant à ce supplice? Madame d'Albémare est parente de Madame de Mondeville. Elle n'a point de frère, point de protecteur naturel. N'est-ce pas à moi de lui en tenir lieu? La réputation de Madame d'Albémare est sans doute le premier intérêt qu'il faut considérer. Mais s'il ne vous est pas entièrement démontré que le devoir le plus impérieux me commande de me laisser dévorer par les sentiments que j'éprouve, vous ne l'exigerez pas de moi. Je n'ai pas encore vu Madame d'Albémare. Il me semblait que je ne pouvais retourner chez elle qu'après avoir réparé de quelque manière l'affront dont je suis la première cause. Oh, je vous en conjure, si vous en connaissez un moyen, dites-le-moi. Dois-je laisser sans défenseur une âme innocente qui n'a que moi pour appui? Lettre 16. Réponse de M. de Lébancé à Léonce. Cernay, ce 2 septembre. Oui, monsieur, il existe un moyen de réparer tous les malheurs de votre ami, mais ce n'est point celui que votre courage vous fait désirer. Madame d'Albémare a bien voulu, comme vous, me demander conseil. En lui répondant à l'instant même, je lui ai déclaré ce que mon amitié m'inspire pour votre bonheur à tous les deux. Je vais lui envoyer ma lettre. Je ne puis me permettre, sans son aveu, de vous apprendre ce que cette lettre contient. Elle vous le confiera sans doute. Tout ce que je puis vous dire maintenant, c'est qu'en vous livrant à une indignation bien naturelle, vous achèveriez de perdre sans retour la réputation de Madame d'Albémare. Si votre nom n'était pas prononcé dans cette calomnie, si de tout ce qu'on dit, ce que l'on croit le plus n'était pas votre attachement pour Madame d'Albémare, vous pourriez en imposer de quelque manière à ses ennemis. Encore faudrait-il que M. de Fierville eût un fils, un proche parent au moins, qui voulût répondre pour lui, et que l'on comprît d'abord pourquoi vous vous adressez à tel homme plutôt qu'à tel autre, pour venger la réputation de Madame d'Albémare. Car le public veut toujours qu'une action courageuse soit en même temps sagement motivée. Et quand il démêle quelque égarement dans une conduite, fût-elle héroïque, il la condamne sévèrement. Mais dans votre situation actuelle, lors même qu'un homme moins âgé que M. de Fierville serait reconnu pour être l'auteur de la calomnie dirigée contre Madame d'Albémare, vous feriez un tort irréparable à votre amie en vous chargeant de repousser l'offense qu'elle a reçue. On ne peut protéger au milieu de la société que les liens autorisés par elle, une femme, une sœur, une fille, mais jamais celle qui ne tient à nous que par l'amour. Et vous, monsieur, qui possédait éminemment les qualités énergiques et imposantes, les seules dont l'éclat se réfléchisse sur les objets de notre affection, vous aspirez en vain à défendre la femme que vous aimez. Ce bonheur vous est refusé. Madame d'Albémare a cependant plus que personne besoin d'appui au milieu du monde. Sa conduite est parfaitement pure, et pourtant les apparences sont telles qu'elle doit passer pour coupable. Elle a un esprit supérieur, un cœur excellent, une figure charmante, de la jeunesse, de la fortune. Mais tous ces avantages, qui attirent des ennemis, rendent un protecteur encore plus nécessaire. Son esprit éclairé donne de l'indépendance à ses opinions et à sa conduite. C'est un danger de plus pour son repos, puisqu'elle n'a ni frère ni mari qui lui servent de garant aux yeux des autres. Les femmes privées de ces liens se sont placées pour la plupart à l'abri des préjugés reçus comme sous une tutelle publique instituée pour les défendre. La parfaite bonté de Madame d'Albémare semblerait devoir lui faire des amis de toutes les personnes qu'elle a servies. Il n'en est rien. Elle a déjà trouvé beaucoup d'ingrats. Elle en rencontrera peut-être beaucoup encore. Vous avez vu ce qui lui est arrivé avec Madame du Marsay. J'ai souvent remarqué que dans les sociétés de Paris, lorsqu'un homme ou une femme médiocre veulent se débarrasser d'une reconnaissance importune envers un esprit supérieur, ils se choisissent quelques devoirs bien faciles auprès d'une personne bien commune et présentent avec ostentation cet exemple de leur moralité pour se dispenser de tout autre. Madame d'Albémare est trop distinguée pour pouvoir compter sur la bienveillance durable de ceux qui ne sont pas dignes de l'aimer et de l'admirer. Et c'est par l'autorité d'une situation qui en impose, bien plus que par ses qualités aimables, qu'elle peut désarmer la haine. Je la vois maintenant entourée de périls, menacée des chagrins les plus cruels, si elle n'en est pas préservée par un défenseur que la morale et la société puissent se reconnaître pour telle. Tous ceux qui, éblouis de ses charmes, n'examinent point sa situation avec la sollicitude de l'amitié, croiront peut-être qu'elle est faite pour triompher de tout. Le triomphe serait possible, mais il lui coûterait tant de peine que son bonheur, du moins, en serait pour toujours altéré. Je ne sais même si elle peut, à elle seule aujourd'hui, effacer entièrement le mal que ses ennemis viennent de lui faire. Mais c'en est assez, je ne dois point insister sur vos peines avant de savoir si vous consentirez à ce que je propose pour les faire cesser. Vous connaissez mes opinions, monsieur, je m'en honore, et j'ai supporté, sinon avec plaisir, du moins avec orgueil, les peines qu'elles m'attirent. Ce sont ces opinions qui m'ont suggéré le conseil que j'ai donné à Madame d'Albémare. Ce conseil est le seul qui puisse vous sauver des malheurs que vous éprouvez et que vous devez craindre. Je crois digne de vous d'y accéder, et vous savez, je l'espère, de quelle estime et de quelle considération je suis pénétrée pour vos lumières et pour vos vertus. Henri de Lébancé. Lettre 17. Monsieur de Lébancé à Delphine. Cernay, ce 27 septembre 1791. Celui que vous aimez est toujours digne de vous, madame. Mais son sentiment, ni le vôtre, ne peuvent rien contre la fatalité de votre situation. Il ne reste qu'un moyen de rétablir votre réputation et de retrouver le bonheur. Rassemblez, pour m'entendre, toutes les forces de votre sensibilité et de votre raison. Léonce n'est point irrévocablement lié à Mathilde. Léonce peut encore être votre époux. Le divorce doit être décrété dans un mois par l'Assemblée constituante. J'en ai vu la loi, j'en suis sûre. Après avoir lu ces paroles, vous pressentirez sans doute quel est le sujet que je veux traiter avec vous. Et l'émotion, l'incertitude, les sentiments divers et confus vous auront tellement troublé que vous n'aurez pu d'abord continuer ma lettre. Reprenez-la maintenant. Je ne connais point Madame de Mondeauville. Sa conduite envers ma femme a dû m'offenser. Je me défendrai cependant, soyez-en sûr, de cette prévention. Votre bonheur est le seul intérêt qui m'occupe. J'ignore ce que vous et votre ami pensez du divorce. Je me persuade aisément que l'amour suffirait pour vous entraîner tous les deux à l'approuver. Mais cependant, madame, je connais assez votre raison et votre âme pour croire que vous refuseriez le bonheur même s'il n'était pas d'accord avec l'idée que vous vous faites de la véritable vertu. Ceux qui condamnent le divorce prétendent que leur opinion est d'une moralité plus parfaite. S'il en était ainsi, il faudrait que les vrais philosophes l'adoptassent, car le premier but de la pensée est de connaître nos devoirs dans toute leur étendue. Mais je veux examiner avec vous si les principes qui me font approuver le divorce sont d'accord avec la nature de l'homme et avec les intentions bienfaisantes que nous devons attribuer à la divinité. C'est un grand mystère que l'amour. Peut-être est-ce un bien céleste qu'un ange a laissé sur la terre. Peut-être est-ce une chimère de l'imagination qu'elle poursuit jusqu'à ce que le cœur refroidi appartienne déjà plus à la mort qu'à la vie. N'importe, si je ne voyais dans votre sentiment pour Léonce que de l'amour, si je ne croyais pas que sa femme disconvient à son caractère et à son esprit sous mille rapports différents, je ne vous conseillerais pas de tout briser pour vous réunir. Mais écoutez-moi l'un et l'autre. De quelque manière que l'on combine les institutions humaines, bien peu d'hommes, bien peu de femmes, renonceront au seul bonheur qui console de vivre. L'intime confiance, le rapport des sentiments et des idées, l'estime réciproque, et cet intérêt qui s'accroît avec les souvenirs. Ce n'est pas pour les jours de délices placés par la nature au commencement de notre carrière, afin de nous dérober la réflexion sur le reste de l'existence. Ce n'est pas pour ces jours que la convenance des caractères est surtout nécessaire. C'est pour l'époque de la vie où l'on cherche à trouver dans le cœur l'un de l'autre l'oubli du temps qui nous poursuit et des hommes qui nous abandonnent. L'indissolubilité des mariages mal assortis prépare des malheurs sans espoir à la vieillesse. Il semble qu'il ne s'agisse que de repousser les désirs des jeunes gens, et l'on oublie que les désirs repoussés des jeunes gens deviendront les regrets éternels des vieillards. La jeunesse prend soin d'elle-même, on n'a pas besoin de s'en occuper. Mais toutes les institutions, toutes les réflexions doivent avoir pour but de protéger à l'avance ces dernières années que l'homme le plus dur ne peut considérer sans pitié, ni le plus intrépide sans effroi. Je ne nie point tous les inconvénients du divorce, ou plutôt de la nature humaine qui l'exige. C'est au moraliste, c'est à l'opinion à condamner ceux dont les motifs ne paraissent pas dignes d'excuses. Mais, au milieu d'une société civilisée qui introduit les mariages par convenance, les mariages dans un âge où l'on a nulle idée de l'avenir, lorsque les lois ne peuvent punir, ni les parents qui abusent de leur autorité, ni les époux qui se conduisent mal l'un envers l'autre. En interdisant le divorce, la loi n'est sévère que pour les victimes. Elle se charge de river les chaînes sans pouvoir influer sur les circonstances qui les rendent douces ou cruelles. Elle semble dire « Je ne puis assurer votre bonheur, mais je garantirai du moins la durée de votre infortune. » Certes, il faudra que la morale fasse de grands progrès avant que l'on rencontre beaucoup d'époux qui se résignent au malheur sans y échapper de quelque manière. Et si on y échappe, et si la société se montre indulgente en proportion de la sévérité même des institutions, c'est alors que toutes les idées de devoir et de vertu sont confondues, et que l'on vit sous l'esclavage civil comme sous l'esclavage politique, dégagé par l'opinion des entraves imposées par la loi. Ce sont les circonstances particulières à chacun qui déterminent si le divorce autorisé par la loi peut être approuvé par le tribunal de l'opinion et de notre propre cœur. Un divorce qui aurait pour motif des malheurs survenus à l'un des deux époux serait l'action la plus vile que la pensée pût concevoir. Car les affections du cœur, les liens de famille, ont précisément pour but de donner à l'homme des amis indépendants de ses succès ou de ses revers, et de remettre au moins quelques bornes à puissance du hasard sur sa destinée. Les Anglais, cette nation morale, religieuse et libre, les Anglais ont, dans la liturgie du mariage, une expression qui m'a touchée. Je l'accepte, disent réciproquement la femme et le mari, dans la santé comme dans la maladie, dans ses meilleures circonstances comme dans ses plus funestes. La vertu, si même il en faut pour partager l'infortune quand on a partagé le bonheur, la vertu n'exige alors qu'un dévouement tellement conforme à une nature généreuse qu'il lui serait tout à fait impossible d'agir autrement. Mais les Anglais, dont j'admire sous presque tous les rapports les institutions civiles, religieuses et politiques, les Anglais ont eu tort de n'admettre le divorce que pour cause d'adultère. C'est rendre l'indépendance au vice et n'enchaîner que la vertu. C'est méconnaître les oppositions les plus fortes, celles qui peuvent exister entre les caractères, les sentiments et les principes. L'infidélité rompt le contrat, mais l'impossibilité de s'aimer dépouille la vie du premier bonheur que lui avait destiné la nature. Et quand cette impossibilité existe réellement, quand le temps, la réflexion, la raison même de nos amis et de nos parents la confirment, qui osera prononcer qu'un tel mariage est indissoluble? Une promesse inconsidérée, dans un âge où les lois ne permettent pas même de statuer sur les moindres des intérêts de fortune, décidera pour jamais du sort d'un être dont les années ne reviendront plus, qui doit mourir, et mourir sans avoir été aimé. La religion catholique est la seule qui consacre l'indissolubilité du mariage. Mais c'est parce qu'il est dans l'esprit de cette religion d'imposer la douleur à l'homme sous mille formes différentes comme le moyen le plus efficace pour son perfectionnement moral et religieux. Depuis les macérations qu'on s'inflige à soi-même jusqu'au supplice que l'Inquisition ordonnait dans les siècles barbares, tout est souffrance et terreur dans les moyens employés par cette religion pour forcer les hommes à la vertu. La nature, guidée par la Providence, suit une marche absolument opposée. Elle conduit l'homme vers tout ce qui est bon, comme vers tout ce qui est bien, par l'attrait et le penchant le plus doux. La religion protestante, beaucoup plus rapprochée du pur esprit de l'Évangile que la religion catholique, ne se sert de la douleur ni pour effrayer, ni pour enchaîner les esprits. Il en résulte que, dans les pays protestants, en Angleterre, en Hollande, en Suisse, en Amérique, les mœurs sont plus pures, les crimes moins atroces, les lois plus humaines. Tandis qu'en Espagne, en Italie, dans tous les pays où le catholicisme est dans toute sa force, les institutions politiques et les mœurs privées se ressentent de l'erreur d'une religion qui regarde la contrainte et la douleur comme le meilleur moyen d'améliorer les hommes. Ce n'est pas tout encore. Comme cet empire de la souffrance répugne à l'homme, il y échappe de mille manières. De là vient que la religion catholique, si elle a quelques martyrs, fait un si grand nombre d'incrédules. On s'avouait athée ouvertement en France avant la Révolution. Spinoza est italien. Presque tous les systèmes du matérialisme ont pris naissance dans les pays catholiques, tandis qu'en Angleterre, en Amérique, dans tous les pays protestants enfin, personne ne professe cette opinion malheureuse. L'athéisme n'ayant dans ces pays aucune superstition à combattre, ne paraîtrait que le destructeur des plus douces espérances de la vie. Les stoïciens comme les catholiques croyaient que le malheur rend l'homme plus vertueux, mais leur système purement philosophique était infiniment moins dangereux. Chaque homme, se l'appliquant à lui seul, l'interprétait à sa manière. Il n'était point uni à ces superstitions religieuses qui n'ont ni borne ni but. Il ne donnait point à un corps de prêtre un ascendant incalculable sur l'espèce humaine. Car l'imagination répugnant aux souffrances, elle est d'autant plus subjuguée quand une fois elle s'y résout qu'il lui en a coûté davantage. Et l'on a bien plus de pouvoir sur les hommes que l'on a déterminé à s'imposer eux-mêmes de cruelles peines que sur ceux qu'on a laissés dans leur bon sens naturel, en ne leur parlant que raison et bonheur. L'un des bienfaits de la morale évangélique était d'adoucir les principes rigoureux du stoïcisme. Le christianisme inspire surtout la bienfaisance et l'humanité, et par de singulières interprétations, il se trouve qu'on en a fait un stoïcisme nouveau, qui soumet la pensée à la volonté des prêtres, tandis que l'ancien rendait indépendant de tous les hommes. Un stoïcisme qui fait votre cœur humble, tandis que l'autre le rendait fier. Un stoïcisme qui vous détache des intérêts publics, tandis que l'autre vous dévouait à votre patrie. Un stoïcisme, enfin, qui se sert de la douleur pour enchaîner l'âme et la pensée, tandis que l'autre, du moins, la consacrait à fortifier l'esprit en affranchissant la raison. Si ces réflexions, que je pourrais étendre beaucoup plus si votre esprit, madame, ne savait pas y suppléer, si ces réflexions, dis-je, vous ont convaincu que celui qui veut conduire les hommes à la vertu par la souffrance méconnaît la bonté divine et marche contre ses voies, vous serez d'accord avec moi dans toutes les conséquences que je veux en tirer. Retracez-vous tous les devoirs que la vertu nous prescrit. Notre nature morale, je dirais plus, l'impulsion de notre sang, tout ce qu'il y a d'involontaire en nous, nous entraîne vers ces devoirs. Faut-il un effort pour soigner nos parents, dont la seule voix retentit à tous les souvenirs de notre vie ? Si l'on pouvait se représenter une nécessité qui contraignait à les abandonner, c'est alors que l'âme serait condamnée aux supplices les plus douloureux. Faut-il un effort pour protéger ses enfants ? La nature a voulu que l'amour qu'ils inspirent fût encore plus puissant que toutes les autres passions du cœur. Qu'y aurait-il de plus cruel que d'être privé de ce devoir ? Parcourons toutes les vertus, fierté, franchise, pitié, humanité. Quel travail ne faudrait-il pas faire sur son caractère ? Quel travail ne ferait-on pas en vain pour obtenir de soi, malgré la révolte de sa nature, une bassesse, un mensonge, un acte de dureté ? D'où vient donc ce sublime accord entre notre être et nos devoirs ? De la même providence qui nous a attirés par une sensation douce vers tout ce qui est nécessaire à notre conservation. Quoi ? La divinité qui a voulu que tout fût facile et agréable pour le maintien de l'existence physique aurait mis notre nature morale en opposition avec la vertu ? La récompense nous en serait promise dans un monde inconnu ? Mais pour celui dont la réalité pèse sur nous, il faudrait réprimer sans cesse l'élan toujours renaissant de l'âme vers le bonheur. Il faudrait réprimer ce sentiment doux en lui-même quand il n'est pas injustement contrarié. De quelle bizarrerie les hommes n'ont-ils pas été capables ? Le Créateur les avait préservés de la cruauté par la sympathie. Le fanatisme leur a fait braver cet instinct de l'âme en leur persuadant que celui qui en avait doué leur nature leur commandait de l'étouffer. Un désir vif d'être heureux anime tous les hommes. Des hypocrites ont représenté ce désir comme la tentation du crime. Ils ont ainsi blasphémé Dieu, car toute la création repose sur le besoin du bonheur. Sans doute, on pourrait abuser de cette idée comme de toutes les autres, en la faisant sortir de ses limites. Il y a des circonstances où les sacrifices sont nécessaires. Ce sont toutes celles où le bonheur des autres exige que vous vous immoliez vous-même à eux. Mais c'est toujours dans le but d'une plus grande somme de félicité pour tous que quelques-uns ont à souffrir. Et le moyen de la nature, au moral comme au physique, ce sont les jouissances de la vie. Si ces principes sont vrais, peut-on croire que la Providence exige des hommes de supporter la plus amère des douleurs en les condamnant à rester liés pour toujours à l'objet qui les rend profondément infortunés? Ce supplice serait-il ordonné par la bonté suprême? Et la miséricorde divine l'exigerait-elle pour l'expiation d'une erreur? Dieu a dit « Il ne convient pas que l'homme soit seul ». Cette intention bienfaisante ne serait pas remplie s'il n'existait aucun moyen de se séparer de la femme insensible ou stupide ou coupable, qui n'entrerait jamais en partage de vos sentiments ni de vos pensées. Qu'il est insensé celui qui a osé prononcer qu'il existait des liens que le désespoir ne pouvait pas rompre. La mort vient au secours des souffrances physiques quand on n'a plus la force de les supporter. Et les institutions sociales ferait de cette vie la prison du Gaulin qui n'avait point d'issue. Ses enfants y périrent avec lui. Les enfants aussi souffrent autant que leurs parents, quand ils sont renfermés avec eux dans le cercle éternel de douleur que forme une union mal assortie et indissoluble. La plus grande objection que l'on fait contre le divorce ne concerne point la situation où se trouve M. de Mondeville, puisqu'il n'a point d'enfant. Je ne rappellerai donc point tout ce qu'on pourrait répondre à cette difficulté. Néanmoins, je vous dirai que les moralistes qui ont écrit contre le divorce, en s'appuyant sur l'intérêt des enfants, ont tout à fait oublié que si la possibilité du divorce est un bonheur pour les hommes, elle est un bonheur aussi pour les enfants qui seront des hommes à leur tour. On considère les enfants en général comme s'ils devaient toujours rester tels. Mais les enfants actuels sont des époux futurs, et vous sacrifiez leur vie à leur enfance en privant, à cause d'eux, l'âge viril d'un droit qui peut-être un jour les aurait sauvés du désespoir. J'ai dû, m'adressant à un esprit de votre force, discuter l'opinion qui vous intéresse sous un point de vue général. Mais combien je suis plus sûr encore d'avoir raison en ne considérant que votre position particulière. Léonce voulait s'unir à vous. C'est par une supercherie qu'il est l'époux de Mademoiselle de Vernon. Vous n'avez pu renoncer l'un à l'autre, vous passez votre vie ensemble. Léonce n'aime que vous, n'existe que pour vous. Sa femme l'ignore peut-être encore, mais elle ne peut tarder à le découvrir. Votre généreuse conduite envers M. de Valorbe a été la première cause des abominables injustices dont vous souffrez. Mais il était impossible que, tôt ou tard, votre attachement pour Léonce ne vous fît pas beaucoup de tort dans l'opinion. Vous vivez, par un hasard que vous devez bénir, dans une de ces époques rares où la puissance ne méprise pas les lumières. Dans un mois, la loi du divorce sera décrétée, et Léonce, en devenant votre époux, vous honorera par son amour au lieu de vous perdre en s'y livrant. Craindriez-vous la défaveur du monde? Vous avez vu ma femme le supporter, peut-être avec peine. Mais je vous prédis que cette défaveur ira chaque jour en décroissant. Les mœurs deviendront plus austères, le mariage sera plus respecté, et l'on sentira que tous ses biens sont dus à la possibilité de trouver le bonheur dans le devoir. Il est vrai que le divorce, paraissant à quelques personnes le résultat d'une révolution qu'elles détestent, leur déplaît sous ce rapport beaucoup plus que sous tous les autres. Et comme les haines politiques se dirigent plutôt contre un homme que contre une femme, il se peut que Léon se soit blâmé plus vivement que vous en adoptant une résolution que l'esprit de parti réprouverait. Mais s'il faut une sorte de raison hardie dans les femmes pour se déterminer à devenir l'objet des jugements du public, il ne doit rien en coûter à une femme sensible pour assurer la gloire et la fidélité de celle que son amour a pu compromettre. Je sais que M. de Mondeville a été élevé dans un pays où l'on tient beaucoup à toutes les idées comme à tous les usages antiques. Mais il est trop éclairé pour ne pas sentir que des illusions qui inspiraient autrefois de grandes vertus n'ont pas assez de puissance maintenant pour les faire renaître. Ces souvenirs chancelants ne peuvent nous servir d'appui. Et il faut fonder les vertus civiles et politiques sur des principes plus d'accord avec les Lumières et la raison. Enfin, je n'en doute pas, il vous suffira d'apprendre à M. de Mondeville que le divorce devient possible pour qu'il saisisse avec transport un tel espoir de bonheur. Il serait indigne de lui de sacrifier votre réputation à son amour et de ne ménager que la sienne. Il serait indigne de lui de s'affranchir comme il le fait du joug de son mariage et de n'avoir pas la volonté de le briser légalement. Voudrait-il reconnaître que sa passion pour vous est plus forte que ses devoirs, mais qu'elle céderait aux frivoles censures de la société? Je m'arrête. Une telle supposition est impossible. J'ai toujours pensé qu'un homme ne peut répondre ni de son bonheur, ni de celui de la femme qu'il aime, s'il ne sait pas dédaigner l'opinion ou la subjuguer. M. de Mondeville est, de tous les caractères, le plus fort, le plus ardent, le plus énergique. Se pourrait-il qu'il fût dépendant des jugements des autres, tandis qu'il semble plus fait que personne pour dominer tous les esprits? Non, je ne puis le croire. Et c'est de vous seul que dépendra sans doute la décision de votre sort. Vous inspirez, madame, un intérêt si tendre et si profond. Vous vous êtes conduite pour ma femme et pour moi avec une générosité si parfaite que je donnerais beaucoup de mes années pour vous inspirer le courage d'être heureuse. Le ciel, l'amour, l'amitié, toutes les puissances généreuses seconderont, je l'espère, les vœux que je fais pour vous. Henri de Lébancé. Thank you.